Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 3h.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4h.
Mon seul combat, c'est pour vous.
Des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance.
C'est à moi que je vais créer des emplois.
Moi, je suis socialiste et je l'assume.
Tu peux plier bagages, il pleut, il pleut, il pleut. Dégage, 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 dégage.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.
Bonjour à vous, auditrices, et bonjour à vous, auditeurs, qui écoutez Radio Campus Lille en ce samedi 14 juin 2025. Il est 15h et des brouettes, et nous commençons l'émission des flips et des flops. On va commenter les flips et les gros flops de l'actualité politique, économique, sociale, etc. pendant une heure avec vous. Nous sommes aujourd'hui en présence de notre ami John.
Bonjour.
Et Philippe.
Bonjour.
Et moi-même Roxane. Et donc, nous allons essayer de ne pas mettre le moral de tout le monde à terre aujourd'hui, malgré le fait que, vous pouvez vous en douter, les actualités dont nous allons parler sont d'une gravité extrême. Notre émission a pour forme d'aller de l'orage au courage, comme on l'entend dans le générique. On part de l'orage et on va commencer à parler d'abord d'actualité climatique et de la planète, pour s'en aller vers de l'actualité politique française, mais on partira très vite vers de l'international parce que c'est les grandes actualités du jour, mais on va essayer aussi de partir vers un agenda qui donne des perspectives, des propositions en tout cas de rendez-vous militants intéressants ou culturels intéressants, et des quelques bonnes nouvelles pour s'en aller quand même vers du courage. Voilà, merci beaucoup d'écouter Radio Campus Lille. À la suite de cette émission, vous pourrez entendre D'été Fabula, Narratour, émission d'expérimentation littéraire. Je laisse la parole à mon camarade John pour démarrer l'émission.
Oui, bonjour. Donc, sur le climat, donc voilà, ça, on a eu ces deux derniers jours des températures dans le nord très sympathiques, hein. Plus de 30 degrés, un super soleil. Mais bon, le mois de mai 2025 aurait été encore le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré. Des températures avec des températures records, hein, pour la saison. Au niveau mondial, c'est plus 1,4 degré. Donc les 21 à 22 derniers mois, en fait, on a été à plus 1,5 concrètement. Donc on a une vraie accélération. On a en plus une vague de chaleur qui est arrivée en Islande et au Groenland. Donc c'est une canicule historique, hein, plus de 10 degrés au-dessus des normales en Islande, qui ont provoqué une fonte massive de la calotte groenlandaise. Et donc ça va encore concourir à ralentir l'AMOC, le courant de l'Atlantique Nord, crucial donc pour avoir notre climat tempéré. Donc là, ça va être très très problématique. On a pareil en Inde des chaleurs extrêmes, hein, qui est entre 44 et 48 degrés Celsius. C'est pas très très vivable, très vivable. Il y a eu des alertes rouges pendant 5 jours consécutifs suite à cela, de danger en fait, hein, puisque les gens ne peuvent plus.
Quand la température ne redescend jamais en dessous de la température du corps humain, la seule vocation des humains, c'est de soit s'enterrer sous terre, soit de trouver de la climatisation, ce qui aggrave le problème.
Ouais, voilà, c'est ça. Quand on est dans de ces conditions, et ça, c'est des conditions qui vont arriver en France, notamment dans le sud, où on prévoit des nuits tropicales, hein, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du sud qui vont bientôt, à mon avis, d'ici 2-3-4 ans, vouloir déménager. Et les gens qui vont faire des vacances cet été, je pense qu'ils vont aller, comme l'année dernière, plutôt sur l'Atlantique ou dans le Nord. On le voit même sur l'île, hein, beaucoup de touristes étrangers.
Il y a l'apparition d'un tourisme espagnol en Bretagne.
Ouais, voilà, c'est assez nouveau. Donc, l'autre événement aussi pas cool qui date depuis 2023, c'est le blanchissement des coraux hein, dans les récifs. Donc, c'est la faune et la flore des océans qui est le premier poumon de la Terre qui est en train de sombrer, de mourir, parce qu'il fait trop chaud aussi dans l'eau. Là, c'est des variations de plus 1, plus 2 degrés hein, qui sont suffisantes pour tuer le vivant. Donc voilà, donc on constate vraiment que le réchauffement s'accélère. Voilà, et on n'a pas réussi encore à régler des choses, mais chose positive quand même, je note pour la Chine hein, qui est en baisse de CO2 hein, puisque elle décarbone vraiment toutes ses productions avec toutes ses centrales nucléaires et bon, ça c'est pas cool, mais ses éoliennes et tout le reste, voilà. Pour ce qui est de tout ce qui est du climat.
Et pour les problématiques environnementales comme ça, le 12 juin, une proposition de loi d'une sénatrice écologiste, Mathilde Olivier, avait été déposée pour protéger les écosystèmes marins et a été rejetée.
Avant-hier. Ouais, c'est parce que ça, c'était aussi, j'avais oublié de préciser qu'il y avait le sommet de Nice et c'était justement sur la vie.
Sur la préservation des océans.
Des océans.
Il y a une actualité là-dessus du point de vue des États-Unis aussi, parce que Trump a voulu enlever certaines zones maritimes protégées des accords de protection. Reporter a fait tout un dossier là-dessus.
C'est la lutte pour aussi exploiter en fait le fond marin, les terres rares et tout le reste.
Les fonds marins regorgeant de métaux qu'on sait exploiter maintenant et que tous les capitalistes rêvent d'aller rafler au prix de la destruction de tous les fonds marins, de la vie marine, ça on s'en fout.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, je fais un test, une petite expérimentation pour vous dire de rester avec nous pour la suite de l'information. Je fais un petit essai. Ah non, ça marche pas. Je me suis trompée. Vas-y, c'est parti.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Si nous parlions maintenant de l'actualité politique et sociale en France, est-ce que tu veux commencer par un sujet? Je pensais faire commencer par parler de cette assistante d'éducation qui malheureusement était tuée par un élève au lycée de Dreux, enfin au lycée
à Nogent,
ouais, c'est à côté de Dreux, donc Mélanie Grapinet. Ouais. Le collège s'appelle Françoise Dolto et a priori les premières dans les interrogatoires là, du jeune, il aurait expliqué qu'il était parti pour tuer une surveillante n'importe laquelle. Il a été entré dans un état d'esprit d'agressivité et d'une sorte de délire à partir de ça et voilà, on est sur un cas qui est malheureusement on se rend pas compte à quel point les assistantes d'éducation au quotidien font un travail énorme pour énormément risqué. Donc voilà, courage et bravo à tous les assistantes d'éducation qui font ces travaux précaires dans des mauvaises conditions et pour le bien de tout le système éducatif, et les profs devraient les remercier beaucoup plus, et les directions d'établissement aussi, s'il vous plaît. Voilà.
Donc pour ajouter donc sur ce problème avec le jeune qui a commis un acte irréparable, triste, ça montre comment en fait la jeunesse aujourd'hui est désœuvrée, parce que là franchement on a amené à tuer quelqu'un, alors que sur place il y avait des gendarmes, trois gendarmes, hein, parce qu'ils étaient en train aussi les conditions, le contexte, ils étaient en train de faire justement des fouilles pour savoir si les jeunes avaient des armes blanches sur eux, des couteaux. Et voilà, et là ça s'est mal passé, donc même le ministre Retailleau, qu'on connaît d'une extrême, velléité à prendre des mesures, autoritaires. Autoritaire, genre placer des portiques, doubler le nombre de policiers, et il a expliqué que justement, non, là, même si on avait mis des moyens encore plus de répression, ça aurait pas marché. Ça, j'étais étonné. Mais parce que c'est vrai que, par exemple, si on met un portique, hein, on le rappelle, hein, si on met un portique dans toutes les écoles, c'est 3 heures pour faire passer tous les gamins par le portique, quoi. Et surtout, en plus, il y a des lames qui ne sont pas en métal, là.
Oui, plus le risque d'attroupement à l'entrée des lycées.
Ouais.
C'est quand même intéressant de se dire que sur la réaction sécuritaire, quand même Retailleau finit par admettre que ça a une limite, c'est vraiment qu'on a touché le fond.
Ouais, c'est. Voilà. Et donc, le souci, en fait, dans ces écoles, c'est que, dans toutes les écoles, hein, concrètement, c'est qu'il n'y a plus assez de personnel déjà d'aide d'éducation et de personnel médicaux. En fait, on a un médecin pour 15 000 enfants, alors qu'avant, c'était normalement par collège, hein, et pareil, une infirmière pour 3500 élèves, donc c'est pas la panacée pour s'occuper des problèmes psychologiques des enfants.
Une demi-journée, une journée par collège pour une infirmière, ouais. C'est trop peu.
Et rendez-vous compte que dans certains établissements scolaires, les assistants d'éducation doivent garder des récréations à 300 à 600 élèves, seuls parfois. Ouais. Forcément, le danger est là, évidemment. Quand une bagarre commence à se déclencher d'un côté de la cour, c'est parti pour tous les côtés et pour des raquettes dans un coin, etc. Quoi. C'est pas possible de fonctionner de cette manière. Et il y a aussi ce fossé entre les besoins et les décisions. Et donc la non prise en compte de l'équipe enseignante dans les prises de décision d'établissement, leur permettre aussi plus la prise d'initiative et les moyens pour ces initiatives, et qu'il y ait un vrai dialogue avec toute l'équipe qui s'occupe de l'établissement et non pas seulement des directions qui viennent du dessus et du haut, quoi. Donc voilà, bon courage et condoléances à tous les proches et toute la famille et toutes les personnes qui étaient proches de cette dame qui avait 31 ans et avait un enfant de 4 ans, je crois.
Ouais.
Voilà, nous n'allons pas continuer on continue pas dans les bonnes nouvelles, hein, on continue la suite, désolé.
L'attaque Zucman a été retoquée au Sénat. Donc, tu fais un petit rappel là-dessus, hein.
C'était un projet de taxation à 0,1%, je crois, des revenus de la frange la plus riche de la population.
Non, c'était pas 2%.
0,1% les plus riches, excuse-moi, j'ai mis à l'envers. oui, 2% des revenus des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire on parle de gens démentiellement riches qui vont gagner des millions d'euros par an. Ça a été refusé parce que...
Parce que des sénateurs qui touchent 7000 euros par mois ne voyaient pas l'intérêt de renflouer les caisses de l'État à hauteur de 30 milliards d'euros en supputant qu'en fait ils se seraient évadés, alors que beaucoup d'études montrent que non, justement, à ce niveau-là, les gens ne partent pas, ils n'ont pas intérêt à partir. Surtout en plus qu'ils allaient mettre le système universel en place de voir payer, même s'ils partaient pendant 5-6 ans.
Ça attaque aussi quelque chose de très important, qui est qu'un escalier se balaye par le haut et on ne peut pas demander un effort aux personnes les plus précaires si les plus riches n'y contribuent pas. C'est une incitation généralisée à la fraude, ce genre de choses.
Et en plus, dans ce que tu dis, il y a que l'effort est déjà réalisé par ceux du plus bas, parce que s'ils ont cette richesse, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui créent leur richesse. Donc on le fait déjà, cet effort.
Ouais.
On paye en plus d'impôts qu'eux, en pourcentage.
Donc voilà, encore une injustice du gouvernement. Mais justement, il y a une étude qui a montré pour les politiques qui sont actuellement au pouvoir dans l'exécutif, en tout cas, c'est ceux les plus riches depuis un certain moment. Ils sont tous au moins millionnaires, les membres du gouvernement, donc avec un peu plus de 2-3 millions d'euros chacun.
Ou la très grande majorité de l'Assemblée nationale. Hein. On n'a pas beaucoup de, ne serait-ce d'abord d'ouvriers, mais même de fils d'ouvriers sur les rangs de l'Assemblée. C'est un phénomène qui est vieux, qui a plusieurs décennies.
S'est accru avec l'arrivée du camp macroniste, d'ailleurs.
La société civile du clan macroniste, ouais.
La société civile, ouais. Est-ce qu'on en vient à la flottille de la liberté? Tu voulais dire une info avant, parce que
non, la flottille,
par transition, on va partir vers les infos internet. Ouais. International. Donc le Madeleine avait... Pardon. Le Madeleine, le bateau qui était apprêté pour apporter des vivres et bon, une aide symbolique avant tout en Palestine, à Gaza, pour montrer qu'il y a du soutien Et c'était différentes personnalités, activistes ou reconnues ou politiques, qui étaient sur ce bateau. Donc la flottille a été stoppée, interceptée contre le droit international. Ensuite, les gens ont été emprisonnés, mais certaines relâchées, notamment Rima Hassan est revenue en France, mais on a encore des personnes qui sont enfermées, et notamment Yanis Mamdi, journaliste chez Blast, qui n'est toujours pas de retour, à cause de la montée des tensions entre Israël et l'Iran, dont on va parler juste après. Pascal Morieras et Marco Van Rennes aussi. Voilà.
Donc, il faut savoir que les gens qui ont pu revenir de la flottille ont dû signer un papier comme quoi, en fait, ils étaient rentrés illégalement dans l'État d'Israël et donc ils étaient expulsés pour cette raison. Mais en fait, là, c'est pareil, c'est encore une bataille de communication pour se mettre dans la position de victime concrètement par rapport à l'action, alors que c'était une flottille humanitaire hein, qui était juste là pour essayer de briser. Elle va, d'autres flottilles vont continuer à...
Il y a surtout le grand cortège initié par, oui, par les gens des pays du Maghreb, oui, les Tunisiens, les Libyens, les Algériens, qui sont en train de déferler en masse, qui rencontrent des difficultés à traverser l'Égypte en ce moment, mais qui veulent déferler en masse pour percer le blocus de Gaza.
C'est ça. Et là, c'est un grand rassemblement piéton. Un grand rassemblement, un convoi. C'est, mine de rien, ces initiatives symboliques ont beaucoup d'importance parce que c'est l'occasion d'en parler, mais surtout aussi de jouer avec cette transgression de la. Des lois israéliennes, en fait, montrer que aller apporter de l'aide est véritablement bloqué, interdit par Israël. Ouais. Ça montre leur manière de fonctionner, de se comporter. Et malheureusement, il faut des célébrités pour que ça mette la lumière sur.
Et là, ça met donc la pression sur l'État d'Israël et qui peut justement être l'explication de l'attaque dite de l'Iran pour faire encore
une fuite en avant.
Ouais, une fuite en avant, une diversion sur la situation, parce qu'en fait, comme c'est un gouvernement d'extrême droite, concrètement, je pense qu'il n'y a pas de solution avec eux. Hein. C'est juste qu'ils vont aller de pire en pire.
On va en parler un peu juste après, mais je ne pense pas que ce soit seulement une diversion, malheureusement.
Non, c'est certain.
Je pense que c'est plus stratégique encore et plus grave ce qui se passe, mais oui, ça détourne. Du génocide à Gaza. Il faut savoir que là, leur réseau de téléphonie et de télécommunication est coupé à cause des dernières frappes.
En Israël ?
À Gaza.
Ok.
Donc ça, c'est une info toute fraîche, là. Si on veut parler effectivement de la montée des tensions qui viennent de se produire, Israël a attaqué de manière préventive, attaquer l'Iran avec des frappes stratégiques qui ont été véritablement conséquentes, puisque des chefs haut placés, des lieux stratégiques, des sites stratégiques ont été attaqués, et notamment un site d'enrichissement en uranium, des très haut gradés, dont le chef de l'état-major des armées de l'Iran et le chef des gardiens de la révolution, ont été tués.
Et je ferai un petit bémol, hein. C'est pas une attaque préventive, c'est une agression. Une attaque préventive, c'est quand on veut se défendre. Là, on est dans une agression absolument unilatérale, a priori. Il n'y avait pas d'alerte sur une éventuelle attaque iranienne contre l'État d'Israël. C'était pas dans les tuyaux du tout. On est sur une agression unilatérale d'Israël sur l'Iran. Oui. C'est deux pays qui s'aiment pas, mais c'est pas une raison pour se foutre sur la gueule.
En fait, en utilisant le mot attaque préventive, j'utilise le mot des Israéliens qui l'ont utilisé parce qu'ils disent que l'Iran est une menace à cause du nucléaire, est une menace pour eux, une menace existentielle, nanani. Donc, effectivement, tu as raison de préciser ça, Philippe. Et donc, la réponse iranienne, Ali Khamenei, j'essaye de ne pas le dire de la même manière que Khomeini, mais ça s'écrit bref, Khamenei, celui qui est l'actuel gardien de la révolution, etc., a fait des déclarations déclarant que c'est une déclaration de guerre. Enfin, en répondant que c'est une déclaration de guerre de la part d'Israël. Donc, on a une escalade majeure, là, extrêmement...
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
La diplomatie n'est plus en place. Hein, c'est la force qui... c'est un rapport de force qui s'est installé. Alors qu'il y avait une réunion de prévu le dimanche demain, toujours autour de ce nucléaire iranien organisé par les États-Unis, Israël se permet de frapper deux jours avant, trois jours avant, rompant tout dialogue possible. Voilà, et puis du coup, on va voir les postures géopolitiques, les postures des dirigeants à l'international. Ils vont être obligés de donner une position et il va y avoir des positions qui vont se raidir de tous les côtés. Il me semble, c'est ce qui me semble très inquiétant.
Non, c'est clair, surtout que cette frappe des Israéliens a eu concrètement un l'aval des Américains, hein, de Trump, puisque...
Il a avoué qu'il était au courant.
Ouais, voilà, ils étaient prêts à ce que ça arrive. Peut-être aussi parce que voilà, il se passe aussi des choses aux États-Unis dont on va parler dans quelques instants. Ouais.
Pour ce sujet-là, on peut conseiller quelques sources qui sont fort intéressantes. Là, sur France Inter, il y a eu un entretien avec Agnès Levallois, Armin Arefi et Pierre Aski, qui sont chacun des soit chercheurs, soit journalistes, grands reporters. Et c'était vraiment très intéressant. Et ils sont aussi dans l'émission de C'est à vous qui les a reçus. Et dans Le Média, il y a un entretien avec Bertrand Badi, qui s'appelle Attaque sur l'Iran, kidnapping de journalistes. Bertrand Badi décortique le jeu terrible d'Israël, qui est très intéressant également. Et sur Blast, il y a un focus autour de cette flottille de la liberté, de la détention des journalistes. Peut-être que vous avez d'autres sources que vous voulez citer pour conseiller. Sur le site de Micro Rebelle, la petite radio associative de Lens, on a créé un podcast. Alors là, c'est plutôt un focus sur Gaza pour avoir les infos. Forcément, hein, le temps passant, les infos sont toujours à réactualiser. Mais là, c'est un gros point d'étape quand même à partir d'un rassemblement de soutien pour Gaza et avec des personnes interviewées qui sont parfois des amis de personnes palestiniennes qui sont sur place, donc c'est très intéressant de les écouter. Et dedans, on a rajouté de l'info, de la donnée concrète au maximum.
Donc, et on pourrait peut-être faire une petite incise sur le débat qui a eu lieu au sein de la mairie de Lille, au conseil municipal, sur le fait qu'il y ait une très nette impression qu'il y a une répression contre les graffitis, mais surtout les collages de soutien à Gaza. Faut savoir que la mairie de Lille, pour des raisons touristiques, globalement, le collage street art les laisse plutôt tranquilles. Il se trouve que ces dernières semaines, les collages de soutien à Gaza ont été systématiquement retirés, ce qui choque beaucoup. Et pareil, les graffitis de soutien à Gaza ont tendance à disparaître plus vite que les autres. Donc il y a eu tout un long débat en conseil municipal autour de ça, avec des interpellations. Il y a un rôle qui n'est pas très clair de la part de la mairie là-dessus.
Et okay. Est-ce que vous avez vu afficher, moi j'ai vu pendant un moment, une journée afficher les drapeaux, le drapeau palestinien au fronton de la mairie, vous n'avez pas vu ?
Si, il y avait aussi une grande banderole de soutien qui y est toujours d'ailleurs, pour la paix immédiate, dans la bande de Gaza.
Donc voilà, c'est pas si la mairie, elle a quand même, elle est quand même,
Pourquoi elle n'est pas claire ?
Voilà, elle n'est pas claire, quoi.
Je voulais également vous conseiller une émission de radio qu'on vient de commencer à créer sur Micro Rebelle qui s'appelle La Chrysalide, du cocon à l'émancipation, l'émission de transformation, de métamorphose sociale de Micro Rebelle. Et le premier épisode était sur guerre et capitalisme et on fait des gros points sur ça. Surtout, du coup, on a dû se limiter parce que la guerre, c'est un énorme sujet. Et on parle donc beaucoup d'Israël-Gaza et de Russie-Ukraine. Et ensuite, on va vers ici et maintenant, on se met en mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc avec des propositions de pistes, de différentes pétitions à signer, différents mouvements auxquels on peut participer.
Sorti aujourd'hui, il y a une vidéo sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Sur le champ, sur le pacifisme. Alors, il part de Brassens, de la chanson Les Deux Tontons. Et il arrive à quand même une conclusion qui dit que la paix se joue très très en avant de la guerre. Donc avec même une sorte de reproche de la résistance en disant c'était bien de prendre les armes contre les nazis, mais c'était 20 ans avant qu'il fallait bloquer tout ça. Et ça aussi c'est très intéressant.
Oui, tout à fait, je trouve ça très intéressant. Et notamment dans les recherches qu'on a faites pour cette émission, il y a un chercheur qui explique que les raisons, les causes des guerres se trouvent souvent dans les résolution pour la paix, les contrats de paix qui ont été faits, les traités précédents qui ne convenaient pas, qui créaient de l'injustice, de l'inégalité pour une des deux parties et qui étaient en fait en creux les raisons futures d'une guerre à venir. Et on peut le voir, beaucoup pour la Croatie, Serbie-Croatie par exemple. Oui. Ensuite, de quoi parle-t-on ? Tu voulais en venir aux États-Unis ?
Oui, voilà. Donc, depuis au moins le 6 juin 2025, il se passe quelque chose à LA. Des mesures prises par le gouvernement Trump. Alors c'est le deuxième mandat. Hein. C'est pour changer, pour intensifier sa politique migratoire. En fait, il veut expulser plus de 3000 personnes par jour, hein, concrètement. Pose problème, surtout que voilà, on trouve pas les gens forcément comme ça. Et la grosse critique, c'est que voilà, il arrête souvent des personnes qui ne sont pas des criminels sur le territoire. Et c'est 800% d'arrestation des gens qui sont sans casier. Contre 80% qui sont des criminels, concrètement. Et donc ça c'est très problématique, surtout qu'ils emploient des tactiques agressives, hein, en mettant en place d'abord, il a appelé la garde nationale, plus de 2000 soldats, quoi.
Il y a tout un sujet là-dessus. Hein. Ouais. C'est le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est intervenu parce que la garde nationale, normalement, est liée à un des États, des États-Unis. Ouais. Hein. C'est une fédération, ouais. Tout ça. Et effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, le président des États-Unis peut mobiliser la garde nationale, ouais. Mais le fait que ce soit fait contre l'avis du, ouais, gouvernement de Californie est extrêmement choquant, ouais. Et le gouverneur démocrate est intervenu dans des termes très vifs à ce, ouais, sujet, en disant que ça revenait à utiliser la garde nationale de Californie contre le peuple californien.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que dit là dans sa déclaration, le démocrate...
Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Voilà, ça. c'est une vidéo, il faut aller la voir sur, ouais, YouTube. Voilà. C'est extrêmement flippant, il résume très bien les choses sur la bascule militariste de Trump. Donc on sait déjà qu'il est en train de se vautrer dans le fascisme le plus total, mais ça y est, l'intervention de l'armée contre la population, contre les citoyens est en place. Gavin Newsom le résume admirablement.
Ouais. Faut regarder ça. Et en plus, il rajoute à ça qu'il a envoyé 700 Marines. Donc encore des forces encore plus spécialisées pour la guerre sur un territoire normalement pas en guerre, hein, concrètement. Et pour gérer juste. Et le. Donc voilà. Donc ça a donné lieu à beaucoup de petites manifestations. Je veux dire pas petites manifestations, mais pas une grosse manifestation, comment dire. Dans un seul endroit où qui serait contrôlé, non, c'est 4, 5, 6 à plusieurs endroits et où en fait la police n'arrivait plus à gérer la situation.
Et ce week-end, il y a des manifestations d'ampleur prévues absolument partout sur le territoire des États-Unis. La carte de manifestation est assez hallucinante. Hein. Il y en a vraiment sur tout le territoire, même dans des États plutôt vides du Nord. Le Nebraska voit plusieurs manifs. Il y a une prise de conscience, là, cette fois-ci, des citoyens. Maintenant, manifester contre Trump, on verra quelle portée ça pourra avoir.
Ouais, surtout qu'en plus qu'il y a eu lors d'une déclaration d'une secrétaire, je ne sais plus son nom, la secrétaire d'État...
La Défense, la National Security, la Homeland Security, ouais, pardon, il y a eu... Oui,
il y a un sénateur qui a été jeté de la salle et mis en...
Arrêté.
Voilà, ouais. Ce qu'a dénoncé la maire de Madame Bass là, de L.A., donc voilà, on est vraiment face à des choses qui sont très très compliquées aux États-Unis.
Ben, peut-être. On est dans l'illégalité la plus complète. En, ouais, fait, le sénateur voulait utiliser son droit de poser des questions à une représentante du gouvernement, donc là en l'occurrence la ministre de la Sécurité intérieure. Effectivement, il a choisi une revue de presse pour qu'il y ait les journalistes et que ce soit couvert. C'est peut-être pas le moment le plus adéquat. Par contre, c'est pas une raison pour plaquer au sol, menotter et enfermer un sénateur qui ne faisait qu'utiliser quelque chose qu'il avait le droit de faire en plus. Hein. Mmh. C'était légal ce qu'il faisait.
Donc voilà, on est en face maintenant de deux légitimités qui s'opposent concrètement, une qui a l'air plutôt autoritaire et l'autre
qui est pas légitime en fait, elle est illégitime, immorale. Depuis quand on menotte, plaque au sol et envoie en garde à vue quelqu'un qui pose des questions?
C'est pour ça que je dis légitime. Je veux dire le pouvoir de Trump, il a été élu, c'est ce que je voulais dire.
C'est un marqueur de l'extrême droite et même du fascisme, donc des mêmes dirigeants élus, hein, que de piétiner l'état de droit, de piétiner les droits des gens comme ça, et les droits là d'un parlementaire, quoi. Mais quel que soit, quand on est citoyen non protégé, ça arrive plus souvent. Quand c'est un citoyen parlementaire, là on se rend compte que l'état de droit est totalement piétiné et qu'ils s'en foutent. Et là, on est sur des marqueurs d'extrême droite, très grave en fait. Hein, c'est très grave. Ouais.
Surtout dans la façon dont ils ont procédé, concrètement aussi pour les arrestations des migrants, hein, en allant dans les entreprises directement chercher les personnes qui veulent récupérer, quoi.
Oui, il y a l'histoire où la police arrivait en camionnette banalisée auprès des Home Depot, donc c'est les magasins de bricolage autour desquels il y a de la main-d'œuvre qui peut être embauchée à la journée, qui attend d'être justement des journaliers, hein, qui pourraient être embauchés. La police arrive dans des camionnettes banalisées et rafle.
Ouais, rafle, ça rappelle de mauvais souvenirs. Donc voilà, ils font un tournant là. En fait, il y a un tournant aux États-Unis qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'on devait aujourd'hui au moins en parler, parce que dans le mainstream en France, ça n'a pas été super largement couvert, il me semble. Donc voilà.
Si on parle du piétinement des droits humains, juste après, j'aimerais bien vous parler aussi de la frontière franco-italienne, la manière dont sont traitées les personnes exilées qui sont demandeuses d'asile, qui veulent être demandeuses d'asile en France, parce que avec le règlement Dublin en Europe, si elles arrivent en Italie, mais qu'elles demandent en Italie, elles seront toujours ensuite déboutées vers l'Italie. Et certaines personnes ont comme projet de venir en France. Et elles en ont le droit de venir faire cette demande d'asile. Et donc un communiqué du groupe, en gros d'un groupement qui est composé de tous migrants, tous migrantes, de Médecins du Monde, de Amnesty International, etc., ont fait un communiqué pour faire un état des lieux de la régression, en fait, malheureusement, régression de la manière dont sont traitées les personnes qui cherchent à traverser les Alpes de l'Italie vers la France. J'aimerais bien vous le lire après. Et je voulais vous proposer une petite pause musicale, comme on en est à la moitié de l'émission. Une pause musicale avec une chanson qui s'appelle « Telk Kadeya ». Ça veut dire « Ceci est une cause ». C'est par un groupe égyptien qui s'appelle « Kairoki ». Et qui donc parle en fait de Gaza. J'ai trouvé ce chant très beau, donc je voulais vous le proposer pour cette émission. Voilà. On est parti ? Eh bien, vous allez entendre donc le groupe Kairoki Telk Kadeya sur les ondes de Radio Campus Lille 106.6 FM au sein de l'émission des flips et des flops. On commence les flips et les flops dans l'actualité politique, sociale et économique. Merci de nous écouter.
في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية
كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات؟ كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات. بتقول عبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية. وتلك قضية، وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناه علشان مات في الغار جعان، ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاه وحياته. وتلك قضية، وتلك قضية.
Venez d'entendre Telk Kadeya du groupe Kairoki, un groupe égyptien, et cette musique est en train de devenir un hymne d'une jeunesse arabe qui s'oppose au génocide à Gaza, peu à peu. Elle est sortie en fin novembre 2023 Et vous l'avez entendu sur les ondes de Radio Campus Lille 106.6 FM. Nous allons continuer cette émission des flips et des flops, à continuer à parler encore d'actualité internationale avec cette proposition que je vous fais de lire le communiqué d'un collectif, le CAFI, la CAFI, la coordination des actions aux frontières intérieures, parmi lesquelles, en fait, qui regroupe Amnesty International France, la CIMAD, Médecins du Monde, Secours Catholique, Caritas, mais aussi
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Autour des conditions des noms. Conditions de vie des personnes qui cherchent à venir depuis l'Italie vers la France en passant par les Hautes-Alpes. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le communiqué tellement c'est lourd, ça risque de vous faire fuir. Je vais vous en lire des extraits. Alors, frontière franco-italienne dans les Hautes-Alpes, une avalanche de violations des droits. Un communiqué de presse qui date du 13 juin 2025, donc hier. Dans les Hautes-Alpes, les pratiques illégales des autorités françaises poussent les personnes exilées à prendre tous les risques pour traverser la frontière, qui reste dangereuse malgré la fin de l'hiver. Depuis novembre 2024, les associations constatent une dégradation du respect des droits et alertent les autorités quant aux pratiques illégales commises à l'encontre des personnes exilées ces dernières semaines. Ce sont beaucoup de familles, et notamment des femmes seules avec des enfants, qui se retrouvent en danger. Mais l'unique réponse sur le terrain a été l'envoi d'une compagnie de CRS pour davantage contrôler dans les montagnes. Refoulement, mise en danger, déni des droits, depuis 8 ans, ces associations les observent, les documentent et les dénoncent. Cependant, localement, des personnes solidaires organisent des maraudes, avec notamment Tous Migrants et Médecins du Monde, pour porter assistance aux personnes exilées, une fois la frontière franchie. Les constats sont de plus en plus alarmants. De nombreuses personnes sont renvoyées en Italie au mépris de leurs droits fondamentaux, dont certaines qui ont formulé leur volonté de demander l'asile. C'est ainsi le cas d'une femme érythréenne avec son bébé qui, malgré sa demande d'asile au poste frontière de Montgenèvre, a été refoulée plusieurs fois en Italie en mai 2025. Un homme de nationalité soudanaise a témoigné le 22 mai après avoir passé plus de 22 heures au poste de police avant d'être renvoyé en Italie malgré sa demande d'asile en France. Les associations notent qu'il y avait pourtant eu une amélioration du respect du droit d'asile entre février et novembre 2024, mais depuis cette date, les pratiques dans les locaux de la police aux frontières de Montgenèvre se sont à nouveau considérablement dégradées. Entretien expéditif, non individualisé, absence d'informations sur l'accès à une avocate, une interprète, médecin, etc. Renvoi en Italie sans notification ni remise des procédures de décision dont les personnes ont fait l'objet. Situation de grande vulnérabilité, non prise en charge, conditions de privation de liberté indigne, réponse minimale pour l'accès à l'eau, à la nourriture, procédure floue, arbitraire et notamment sur les questions de santé. Voilà pourquoi je vous disais que j'allais m'arrêter au milieu, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur les conditions. En réalité, ce qui se passe, c'est que les personnes passent par des nouveaux chemins, cherchent d'autres chemins dans les montagnes et c'est un danger extrême et en plus on se retrouve avec des courses-poursuites, des témoignages de courses-poursuites dans la montagne, auprès des précipices, dans la nuit. Donc voilà, là c'est totalement en dehors du cadre de procédure de la police.
C'est vrai, ça veut dire que certains font du zèle chez la police.
Ouais. Parfois aidés par des acteurs extérieurs, genre l'association... comment il s'appelle déjà, Frontières, là. Frontières, c'est le magazine d'extrême droite, mais...
Le groupe identitaire
ouais.
Mais ils ont été dissolus.
Ouais.
Ils avaient fait une action comme ça. Donc, ouais, non, c'est pathétique et triste, alors que, voilà, il y aura encore plus, avec la crise climatique qui est en train d'arriver, il y a encore plus de gens, concrètement. Là, on parle de, justement, là, l'exemple du Soudanais qui vient... c'est parce que lui, il y a une crise très compliquée de guerre civile chez eux, dont on va parler tout après là. Mais voilà, on est un pays des droits de l'homme. On est un pays normalement en capacité d'accueillir des gens. Ça fait partie de nous, hein, la solidarité. Donc voilà, c'est pas
le cosmopolitisme, voilà. L'ouverture. On est censé être dans la fraternité. Bon voilà.
Voilà.
Effectivement, tu parles des causes climatiques. C'est vraiment ce En fait, il faut absolument prendre en compte que oui, il va y avoir des déplacements à cause des raisons climatiques et les tensions géopolitiques montantes. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont victimes dans leur pays, que ce soit de guerre directe ou que ce soit de répression parce qu'ils sont homosexuels, que ce soit... vu l'état de la politique mondiale, c'est évident que oui, il y a des personnes qui se sauvent, qui partent et qui veulent changer, essayer de donner une autre existence à leurs enfants. Ils pensent même pas à eux. Hein. En général, ces personnes qui arrivent avec, c'est pour la suite, c'est pour le futur, c'est pour essayer de aussi d'envoyer de l'argent à la famille sur place. Parfois, c'est effectivement. Et donc, tu parlais de là, on parlait de ce monsieur soudanais. C'est peut-être plus l'heure, mais c'est encore en cours. Il y a une manifestation depuis 14 heures qui a démarré Square Foch à Lille pour soutenir le peuple soudanais qui, depuis avril 2023, est plongé dans une guerre dévastatrice, responsable de millions de personnes déplacées. Les civils sont victimes de violences de masse.
Plus de 150 000 morts. Plus de 150 000 morts, et des déplacements de population, hein, plus de 11 millions, crimes de guerre et famine sont le lot quotidien en fait des Soudanais.
Ça parle même de nettoyage ethnique.
Ouais, voilà, c'est en fait des conflits où il y a en plus des interventions extérieures, notamment là j'avais entendu un général libyen, là, Kafsar, là, il me semble.
Oui, qui a fait une attaque interfrontalière. C'est une situation particulière parce que là on parle aussi de la guerre civile larvée en Libye. Ouais. Et le général Haftar qui contrôle la partie est du pays, qui s'est permis de faire des interventions au Soudan pour protéger ses intérêts pétroliers.
Ouais. Donc, dans ce conflit, on a l'armée soudanaise qui est confrontée aux forces de soutien rapide, le RSF, contre la SAF. L'ONU a fait plusieurs appels pour essayer de résorber, de régler cette crise, mais c'est très compliqué. Autant pour Gaza, on ne voit pas, en fait, on essaie, dans nos médias mainstream, on ne voit pas ces histoires, en fait.
Ou la guerre civile qui continue en Éthiopie, pareil, l'intensité comme en Libye s'est réduite, mais elle existe toujours. Les affrontements au Tigré ont peut-être baissé d'intensité, mais existent toujours. Et ce sont effectivement des situations dramatiques qui déplacent des grandes quantités de population qui ne parviennent pas en Europe, donc en fait, fondamentalement, on s'en fout. Mais ça crée des drames humanitaires dans ces pays-là qui sont affreux. Tu parlais des 150 000 morts au Soudan, ce sont des millions de déplacés, c'est des vies brisées, c'est quelque chose d'absolument terrible et qui, effectivement, n'apparaît pas sous nos yeux. Et je vais même faire un peu mon autocritique. Et même dans nos sphères militantes, finalement, on en parle assez peu. Alors que ça reste vivant et qu'il faut des articles un peu perdus sur l'humanité ou sur le monde pour que je me rende compte que ces affaires-là continuent. Ouais. C'est dingue que les médias mainstream soient sans information là-dessus.
Le travail de l'association Survie Nord est super là-dessus parce que c'est des gens qui donc s'abonnent à tous les journaux, mais aussi des trucs officiels, des trucs qui sont un petit peu chers, des revues scientifiques et puis des revues utilisées par les diplomates internationaux. Ils s'abonnent à tout ça, ils lisent, ils font du travail de compilation et de vulgarisation des enjeux en Afrique. Et également, le RFI Afrique fait du travail informationnel assez intéressant et de terrain. Mais c'est vrai que sur les autres, beaucoup de médias et de chaînes, on n'a pas d'informations à propos de l'Afrique. Quasi jamais, ou très peu.
Y compris sur les médias militants.
Bien sûr, c'est ça. Oui.
On investit très peu là-dedans. Le souci, c'est que ça existe quand même, hein, c'est ça.
Les drames existent, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils ne se produisent pas.
Ouais. Mais oui, le déni, c'est pas le bon moyen de lutter contre les problèmes. est-ce qu'on passerait pas, pour les quelques minutes qui nous restent, vu qu'on a encore une dizaine de minutes, aux bonnes nouvelles plutôt, à des choses plus positives, ou du moins à des rendez-vous, des perspectives?
Là, je vais te donner...
Ah non, il y a encore un truc.
Non, je vais donner une perspective positive, justement, face à l'international fasciste qui se sont réunis là, en Europe il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a eu la création de l'ELA. C'est l'Alliance des Gauches Européennes pour les Peuples et pour la Planète. Donc c'était une réunion à Porto qui réunit entre autres l'Alliance Rouge-Verte du Danemark, le Bloc de Gauche du Portugal, la France Insoumise, Parti de gauche de Suède, l'Alliance de gauche de Finlande, la gauche ensemble la Pologne. La Pologne, là où il y a eu la victoire triste voilà, de l'extrême droite. Et Podemos en Espagne. Donc voilà, ils ont pour objectif donc d'unifier la gauche, vraiment pour combattre, parce que est-ce que c'est plus à une échelle nationale forcément qu'on peut battre le fascisme, hein, puisqu'on voit qu'il se répand partout, vraiment en Europe, c'est compliqué, vu on a vu les financements de Musk pour l'élection allemande le parti de l'AFD, hein, donc voilà, c'est vraiment pareil, il y a des milliardaires qui sont internationalistes, dans le sens, ils cèdent entre racistes de chaque pays, quoi. Donc voilà, il y a l'ELA qui essaie de trouver des stratégies convergentes, voilà, pour fournir quelque chose de concret aux personnes pour lutter. Parce que se retrouver seul face au fascisme, c'est compliqué. Hein. Il faut trouver des moyens, des solutions communes.
Parce que l'international sera le genre humain.
Voilà, ouais. J'allais citer ça parce que il y a sur Blast, il y a, je sais pas si vous connaissez ce youtubeur qui a fait des choses avec Usul et tout ça, qui maintenant fait sa propre chronique Os Politique sur les dessous des. Alors c'est pas les dessous des cartes, c'est
les
dessous des mondes. Ouais, ouais, il a donné un nom assez sympa.
Il a mixé tout.
C'est CDDM, c'est les cartes du dessous des mondes. Ouais. Et donc il commence toujours par cette devise où il finit. En tout cas, et il dit voilà, si l'actualité est déprimante, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain. Comment il le dit ? T'as la phrase ?
C'est ça, je pense que tu l'as cité exactement. N'oubliez pas, si l'actualité politique c'est déprimant, l'international sera de genre humain.
Voilà, je trouve que c'est génial comme devise d'émission. Et en fait, c'est de la géopolitique, c'est des petits formats où il fait un focus sur un pays. Et c'est, on a besoin aussi de ce genre de chronique pour s'informer. Donc bravo à lui, j'aime bien. Dans les perspectives, les choses positives, on a des gens en train de manifester actuellement à partir de la place de la République. Maintenant, ils ont dû bouger un peu parce que c'était à partir de 15h contre la loi Duplon sur les questions des néonicotinoïdes, etc.
C'est une grosse mobilisation des associations environnementales du coup, que j'ai pu bien connaître par le passé. Donc tout ce qui est autour du réseau MRES, effectivement. Le sujet de l'écologie, on en a parlé un peu en demi-émission, qui était un peu passé à la trappe au travers de la loi Duplon. Il y a une petite fenêtre d'opportunité pour remettre ça à la lumière, parce que malgré ce qu'on disait sur l'international, l'agro-industrie continue de détruire juste à côté de chez nous, dans nos champs, nos santé.
Et sur ces enjeux-là, il y a souvent les Belges qui viennent nous aider. Si on veut rester sur les luttes internationales, on a quand même des actions groupées, entre Belges et Nord de la France pour ces choses-là, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, et qu'il faut aller taper aussi à la porte de Bruxelles pour ces choses-là. Dans les infos écologiques qui peuvent être un peu meilleures. Une étude scientifique publiée ce jeudi 22 mai 2025 révèle que les gaz émis par les fientes des oiseaux marins, notamment les pingouins, peuvent ralentir le réchauffement climatique. Les gaz émis par les fientes des oiseaux marins, notamment les manchots, jouent un rôle dans la formation des nuages au-dessus de l'Antarctique, selon une étude de la revue scientifique Nature Communication Earth and Environment. Ces nuages ont un effet rafraîchissant naturel sur la région, ce qui pourrait contribuer à limiter dans une certaine mesure la hausse des températures dans cette zone. Si on ne peut pas considérer les manchots comme des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique, leur influence sur le microclimat local est toutefois indéniable. Cette découverte illustre l'interdépendance entre la biodiversité et le climat et souligne l'importance de préserver ces espèces et leur environnement, j'ai envie de dire, et aussi d'investir dans la recherche scientifique. Ça vient du média, au niveau de la source, c'est le média positif. Voilà, voilà. Dans les bonnes nouvelles, j'en ai encore une autre, si vous voulez en donner une.
Il y a peut-être, pour les bonnes nouvelles, il y a deux autrices américaines, je n'ai plus le nom, peut-être que vous les avez, qui ont écrit un livre sur une révolution mondiale positive, en fait, mais bon, qui se passerait en 2050.
Yes.
Donc, c'est sur Blast, vous te retrouvez, il y a l'interview des autrices, c'est sympa.
Tu te souviens plus de leur nom ?
Non, c'est...
Après, globalement, on peut s'intéresser à toute la mouvement solar punk et qui essaye d'imaginer des futurs alternatifs souhaitables. C'est vrai que ces derniers temps, décrire la catastrophe, de toute façon, on vit dans la pire dystopie possible en ce moment. Donc, se faire rêver un peu, se dire c'est possible de s'en sortir en partant de là où on est, c'est important, d'abord pour se donner de l'espoir et puis aussi pour imaginer les chemins possibles. Pour créer un avenir meilleur.
Voilà, il faut imaginer les chemins, parce que même à Gaza, justement, quand j'ai moi-même rencontré quelques Palestiniens, ce qu'ils nous demandaient, hein, c'était d'avoir de l'espoir, hein, de trouver un chemin. Si nous-mêmes, on ne trouve plus de chemin, bah, c'est fini. Hein.
Et oui. Eh bien, il faut aussi essayer de... Enfin, y croire, c'est ça, y croire et être constructif, mais essayer de faire les choses en s'organisant collectivement et pas chacun dans son coin. On a essayé de faire ça depuis des années et des années à Lens, à Micro Rebelle, qui est la petite radio associative dans laquelle je travaille. Elle a 10 ans cette année, et cette année, l'ARCOM nous a donné une... fréquence FM, on va démarrer sur les ondes et vous rejoindre sur les vraies ondes FM, sur la 99.6, en modulation de fréquence sur le bassin minier.
Excellent. Quasiment la fréquence historique de Radio Campus, qui était le 99.7.
Ouais, magnifique. Et PFM, provisoire FM, depuis 81, PFM à Arras, c'est 99.9.
Ah, ils ont réussi à conserver leur fréquence ?
Oui.
Ah, excellent, j'avais pas eu. Ça fait deux bonnes nouvelles en une pour moi. Ok, cool.
Oui, ils sont super, PFM, ils font plein de choses. Et notamment, ils participent au festival Écoute que coûte, qui va avoir lieu, je crois que ça commence, alors je vais vous retrouver exactement le programme, ça commence le 2 juillet, c'est tout le mois de juillet, du 2 au 25 juillet. Il y a plein de choses proposées en radio. Si vous aimez faire de la radio, écoutez de la radio. C'est super. Le 2 juillet, ça commence avec, au départ, c'est les entonnoirs, l'émission qui a lieu. Qui
passe les mercredis matins de 8h à 9h sur Radio Campus.
Voilà, c'est ça. Et donc, à Voillers-Sarenberg, il y a un échange-rencontre avec les animateurs, animatrices de cette émission qui est organisée autour de radio et santé mentale. Le vendredi 4 juillet à 19h, il y a une conversation radio avec Antoine K.O., qui est quelqu'un qui a toujours participé à plein de choses dans les radios. Et là, il ouvre les archives d'une radio et de la scène alternative et antifasciste des années 80 auxquelles il participait. Dans la semaine du 7 au 11 juillet, du lundi 7 au vendredi 11 juillet, chez Oscar à Marly, il y a Super Cambrousse, donc qui est une petite web radio éphémère et artistique qui fait du social aussi et qui diffuse des choses ici en l'émission. On raccroche les wagons. Je saurais plus vous dire quand elle passe dans la semaine, mais c'est sûrement une fois par mois. Je sais plus exactement. C'est on raccroche les wagons. Donc là, il propose une création de podcast collective, un podcast engagé. Voilà. Et le 11 juillet, du coup, le vendredi 11, c'est avec Micro Rebelle. De 10h à 17h, on va faire la réalisation collective et conviviale d'une fiction sonore sur le thème de la désobéissance civile. Et vous pourrez écouter ça en live à partir de 19h. Et puis de 20 à 22, il y aura DJ set participatif. Voilà, donc il y a plein de choses. Je vous conseille d'aller voir le programme. Je ne vais pas continuer parce qu'on n'aura plus le temps de dire d'autres choses. Le programme, c'est donc Écoute que coûte, festival de l'écoute et de la radio, organisé par les petites radios associatives du coin, surtout à l'initiative de PFM au départ. Et puis après, il y a tout le monde qui s'est greffé. Ils ont invité tout le monde à participer. Et également la FRANF, la Fédération de radios associatives du Nord et la France, qui fait beaucoup pour aider aussi. Merci à Nathalie. Voilà. Dit-on d'autres infos encore ? Parce que j'ai d'autres choses à dire, mais je vous laisse la parole.
Je pense que non, pour moi, c'est...
On est bien.
On est bien, donc dans les temps.
On est dans les temps. Il y a une conférence gesticulée qui a l'air super intéressante, qui est réalisée par une des filles de l'association du collectif Kif Kif, un collectif de lutte contre les discriminations, et qui va parler du génocide au Rwanda. On est toujours sur les thèmes lourds. C'est une conférence gesticulée mardi 24 juin à 18h au théâtre Pierre de Roubaix. C'est gratuit mais sur réservation, donc auprès du collectif Kif Kif. Et voilà, il va être temps pour nous de vous dire au revoir, de vous souhaiter une excellente semaine, et même deux semaines. On se retrouve dans... Nous, c'est toutes les deux semaines, un samedi sur deux, de 15 à 16, Donc le prochain, ce sera le samedi 28 juin.
À dans 15 jours.
Dans 15 jours, au revoir.
Au revoir et on vous souhaite bien du courage.
Radio Campus Lille, il est 16h.